à Grenoble et dans l'aglo. News FM sur le 101.2.
La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La Voix de l'Emploi. Avec le soutien de Grenoble Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix de l'Emploi, votre émission en direct sur l'emploi sous toutes ses formes, et bienvenue en cette rentrée 2025. Et bah oui, ça y est, hein, l'été est fini, les vacances sont finies pour ceux qui en ont eu, hein, pour d'autres, bah, ils ont bossé tout l'été, donc ça change pas, c'est un jour comme les autres. En tout cas, si vous, vous en avez profité, et bah, je vous souhaite une très bonne rentrée, en espérant que cet été a été très bon pour vous toutes et tous. Alors, bah, c'est la rentrée aussi pour La Voix de l'Emploi. Et nous allons aujourd'hui parler d'accompagnement vers l'emploi, puisque nous recevons l'association grenobloise à Lille, qui intervient dans ce domaine et qui est basée dans le quartier de la Villeneuve. Pour représenter l'association, nous recevons sa directrice et cofondatrice, Bérangère Grimoux. Bonjour Bérangère. Hop là, je monte les micros.
Bonjour Christophe. Bonjour à tous.
Et bienvenue sur le 101.2 News FM. Et à vos côtés, bah, vous êtes venu avec votre collègue Safa Bakour, qui est chef de projet du dispositif CitéLab pour l'association. On va y revenir un petit peu plus tard sur ce dispositif. Bonjour Safa.
Bonjour Christophe.
Merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Et on va commencer évidemment par une présentation générale de votre association. Et pour entamer cette présentation, j'ai vu en allant sur votre site web, il y a donc un site, voilà, première info pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent. Donc sur votre site, on tombe tout de suite sur un genre de slogan où vous présentez donc l'association, son objectif, en tout cas, agir ensemble pour faire de la différence un atout. Alors, ça peut être intéressant de s'arrêter dans un premier temps sur ces deux aspects-là. D'abord, ensemble. Alors, quand vous dites ensemble, ça concerne qui exactement? Et de quel genre de différence est-ce que vous parlez, que vous évoquez avec cette petite phrase, Bérangère?
Oui, c'est vrai, c'est une phrase qui est très importante pour nous. Et effectivement, le mot « ensemble », l'idée et ce pourquoi a été créée l'association en 2019, c'était de se dire « le ensemble », c'est bien sûr l'équipe de l'association et le demandeur d'emploi, mais pas seulement, c'est le tissu local, donc les accompagnateurs de l'emploi avec lesquels nous collaborons beaucoup, les entreprises qui recherchent du personnel, et nous, en tant que tiers de confiance auprès de ces entreprises et des bénéficiaires, des demandeurs d'emploi. Voilà. Donc, c'est vraiment réunir toutes les forces en présence du bassin grenoblois pour pouvoir permettre aux entreprises de trouver le bon profil et aux demandeurs d'emploi de pouvoir trouver le bon poste dans la bonne boîte.
Et alors, quand vous parlez de la différence ?
La différence, alors, c'est volontairement un terme très vague qu'on a inclus dans cette phrase-là, parce que il y a énormément de programmes, de structures qui font que pour pouvoir les intégrer, il faut rentrer dans les cases, chercher un emploi depuis tant de temps, être bénéficiaire de telle aide, avoir un handicap ou une autre typologie de bénéficiaire, etc. Et on s'est dit, maintenant, la vie, la société font qu'on peut tous avoir un moment de moins bien, qui font qu'on se sent plus inclus dans le monde du travail. Donc, il y a effectivement des choses qui nous différencient. Je parle, ça peut être aussi l'emploi au féminin. En tant que femme, on peut vivre une forme de discrimination sur le marché de l'emploi. Donc, c'est une différence qui est innée. Et pour autant, la vie peut faire également qu'à un moment donné, on a une cassure, on a un coup de moins bien, il y a quelque chose, et qu'on a besoin d'un accompagnement sur mesure, qu'on a besoin d'être boosté, qu'on a besoin d'être mis en relation avec des entreprises. Et du coup, on a volontairement voulu créer un programme et des programmes qui soient ouverts à tous. Et on va valoriser ces différences, on va valoriser les savoir-faire, sans forcément cacher les axes d'amélioration aux entreprises, c'est pas l'idée non plus, pour pouvoir atteindre l'objectif, la mise en emploi sur un poste ciblé. Et on y reviendra sûrement dans une entreprise qui nous correspond. Voilà, et ça, c'est important aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Mais il me semble que si.
Bon, très bien.
On remonte donc en 2019. Mm-hmm. C'est la date, l'année de création d'Alil, par vous, et pas seulement, puisque vous l'avez précisé, vous êtes cofondatrice. Mm-hmm. Alors, combien de personnes étaient avec vous pour lancer cette association? Et pourquoi? Parce que vous m'avez dit aussi, avant de commencer, hein, que vous venez du monde de l'entreprise. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous a décidé à tout arrêter en tant que, que salarié d'une entreprise pour monter une association?
Alors, j'ai envie de vous dire que les choses se sont faites progressivement et que finalement, combien de personnes sont derrière cette création de programmes et d'associations, cette petite innovation locale. On y reviendra pourquoi j'ai la présomption de vous dire ça. J'ai envie de vous dire, il y a toute une entreprise. Le chef d'entreprise à Lille, parce qu'à l'époque à Lille, c'était une entreprise, et tous les salariés qui l'ont composée. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Je vais essayer de ne pas être trop longue. C'est parce qu'avant à Lille, c'était une entreprise qui a été créée en 2007 par le cofondateur de l'association. Donc on est deux à cofonder juridiquement et voilà, l'association, on l'a montée à deux. Donc le fondateur de l'entreprise, le dirigeant de l'entreprise et le cofondateur de l'association également, il s'appelle James Fariselli. Et lui, il a eu une idée en 2007, c'était de se dire, il y a énormément de discrimination dans le monde de l'entreprise, il y en a marre. Énormément de personnes sont capables de tenir un poste une fois qu'elles y sont, mais c'est le avant qui pêche. Le comment on va à l'entreprise, comment on arrive jusqu'au RH, comment on passe l'entretien, comment on est introduit dans le tissu économique. Et donc, il y en a marre. Donc, il a démissionné de son super poste sur les Champs-Élysées pour revenir à Grenoble et créer une entreprise qui soit solidaire. Encore un mot un peu large, volontairement, un peu inclusif. Et il s'est dit, moi, je vais recruter uniquement des demandeurs d'emploi. Je vais créer une entreprise traditionnelle, une SAS, avec une activité économique, qui en l'occurrence était la sécurité incendie. Et puis, je vais recruter uniquement des personnes qui sont inscrites à l'époque Pôle emploi, maintenant France Travail, pour les former à nos métiers. Je les recrute uniquement en CDI. Et au bout de quelques années, quand ils auront fait leur expérience, ils seront libres de partir à la concurrence avec une formation, une expérience et pour un meilleur salaire. Mmh. Voilà. Donc il a commencé comme ça, j'étais pas dans le paysage à cette époque-là, en 2007, avec une TPE d'une dizaine de personnes qui fonctionnait très bien. Et puis il s'est aperçu que la diversité revêtait, et les discriminations surtout étaient plurielles. Et donc il s'est dit, mais l'impact social que j'ai envie d'avoir, je l'aurai jamais avec ma petite boîte. Et donc il a décidé de développer, de faire une levée de fonds, etc. etc. Ça fonctionnait très bien, personne partait. Donc le turnover positif qu'il espérait créer ne se faisait pas. Tout le monde était très bien chez Ali. Donc il a développé, il s'est engagé dans une levée de fonds, etc. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivée dans le paysage au départ en tant que consultante pour l'aider à structurer. Parce que vous savez, les visionnaires ont de belles idées et sont impulses. Voilà, et il faut quelqu'un qui derrière, voilà. Donc c'est ce quelqu'un-là, en l'occurrence, c'était moi. Et j'ai trouvé ça super. Je me suis dit, mais enfin, le monde économique rejoint l'humain.
Pourtant, à Lille, n'était pas la toute première à avoir cette idée de travailler davantage sur l'insertion professionnelle de manière solidaire, de manière personnalisée.
Oui.
Donc, bon, la preuve en est qu'il y avait une place pour vous. Mm-hmm. Mais dans l'esprit donc, du fondateur,
Peut-être, oui.
Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau à mettre en place?
C'était pas une entreprise d'insertion. C'était une entreprise traditionnelle qui recevait absolument aucune aide spécifique pour recruter et former sur 1, 2, 3 ans des demandeurs d'emploi. Je vous donne, puisqu'on rentre dans les choses un petit peu spécifiques. Moi, à l'époque, j'étais entre autres aux finances, etc. Donc, c'est des choses que je connais bien. Former quelqu'un sur plusieurs années pour tenir son poste coûtait à l'entreprise 300 000 euros, à peu près en moyenne. Il y avait une perte de production et un coût de formation qui avait un total de 300 000 euros. Si on avait recruté un technicien qui venait d'ailleurs, tout de suite, il était productif, etc. Il n'y avait pas ces pertes-là. Et nous, on n'était donc pas une entreprise d'insertion, donc on n'avait pas d'aide, hein, pas plus que les autres entreprises. Et on menait ce projet-là de manière puriste. C'est-à-dire qu'absolument tous les collaborateurs, il n'y avait pas d'encadrants, il n'y avait pas... Les encadrants étaient les premiers salariés. Vous voyez, on valorisait... Mmh. Voilà. Et donc, sur Grenoble, de cette manière-là, aussi puriste, sans aide, sans agrément d'insertion, etc., en comptant vraiment sur la motivation des personnes qui étaient embauchées, sur le projet. Et, à ma connaissance, on a été, enfin, James a monté la première entreprise de ce genre.
Alors, comment vous baptisez ce genre d'entreprise ? Parce qu'on aime bien mettre un petit peu des petites étiquettes pour pouvoir dire, voilà, c'est une entreprise d'insertion, c'est une association d'insertion, c'est une association intermédiaire.
Nous, on avait des clients qui étaient des entreprises, on avait des marchés publics, on était une entreprise. Si vous ne saviez pas, vous ne pouviez pas deviner. Donc, moi, j'aimais bien dire, quand j'écrivais des petites choses, que c'était une entreprise qui alliait solidarité et rentabilité. Voyez, il fallait qu'on s'en sorte, il fallait qu'on aille chercher notre pain pour pouvoir recruter d'autres personnes et verser les salaires des personnes existantes. Voyez, donc une entreprise inclusive, on peut dire ça. D'ailleurs, on a été la première entreprise de France à recevoir le label Innovation Sociale de BPI. Voilà, donc c'était une belle satisfaction après quelques années de travail. Voilà, donc c'est de là qu'est née l'association, c'est-à-dire que déjà avec cette entreprise, et on revient au départ, on remonte un petit peu dans le discours, on faisait le pont entre le monde social et le monde économique. Et finalement, au bout de quelques années d'activité, donc là on est après 2015, on avait énormément de demandes. Les accompagnateurs de l'emploi, pour qu'au sein de l'entreprise, on recrute leur profil. Et le tissu économique, les entreprises qui venaient nous voir en disant oh, « bah moi aussi j'ai envie de recruter un peu différemment, de miser sur l'humain, de donner la chance. » Alors bon, hein, sur un ou deux postes, hein, mais quand même j'ai envie de tenter l'aventure. Mais j'aurais besoin de clés, donc accompagnez-nous pour le faire, parce qu'on se sent un petit peu désarmé. À l'époque, en 2015-2017, c'était le cas. C'est un peu plus courant maintenant. C'est des sujets qu'on aborde plus sous le sigle RSE. Mais
responsabilité sociale, sociétale, sociale.
De l'entreprise. Tout à fait. Tout à fait. Et finalement, nous, on avait donc, nos clients à satisfaire, nos contraintes et notre périmètre de l'entreprise. Et c'était difficile au sein du périmètre de l'entreprise de répondre à cette demande-là. On ne pouvait évidemment pas recruter tout le monde et on ne pouvait pas énormément dédier de temps à l'accompagnement des structures recruteuses, voilà, qui voulaient recruter. Donc finalement, à un moment, il y a eu un jour qui a marqué la naissance de l'association. Le matin, on intervenait au MEDEF auprès de RH, au MEDEF de l'Isère, que je salue d'ailleurs, auprès de RH qui voulait avoir ces clés-là pour recruter. Et l'après-midi, j'avais rendez-vous avec des directrices de structures d'insertion. Et le matin, donc, les recruteurs, et l'après-midi, les accompagnateurs. Et ces directrices de structures d'insertion me disaient « Mais Bérangère, nous, on accompagne des personnes pendant X mois, X années, et au bout d'un certain temps, certains sont prêts à rejoindre le monde de l'emploi classique, traditionnel, ordinaire, comme on dit. Mais ils font peur et personne ne me les recrute. » Et le soir même, je suis allée voir James, donc, le dirigeant de l'entreprise, dont j'étais le bras droit, bras gauche, ce que vous voulez, mais en tout cas, dont j'étais le soutien. Et voilà. Et je lui dis, écoute, tu as un souhait, c'est avoir un impact social. On fait ce qu'on peut avec le développement de l'entreprise à Lille. On est passé d'une dizaine de collaborateurs à... le nombre exact, je ne l'ai pas, mais en tout cas plus de 80 en quelques années, en 5 ans. Donc on a déjà fait une belle croissance pour une TPE, on est passé PME. On a ouvert 8 agences sur le quart sud-est de la France. Enfin, on a essayé de décémer, comme on dit. C'est un terme aussi qui est fréquemment.
Un développement quand même, voilà. Assez impressionnant.
Voilà, mais comme on n'arrivait pas à répondre à la demande, on se sentait quand même un peu frustré. Voyez, on cherchait toujours à voir ce qu'on pourrait faire de plus, de mieux, de différent. Et je suis allée le voir, je lui ai dit, écoute, comme on n'est pas... on n'est pas au point d'arriver, enfin en termes d'impact social, on n'y est pas, en tout cas à notre sens, on en discutait souvent. Ce qu'on va faire pour pouvoir s'occuper de personnes, prendre en charge des personnes qui ont d'autres projets professionnels que celui de l'entreprise, pour pouvoir répondre à la demande des entreprises qui souhaitent recruter, on va créer une structure associative qui portera le même nom que l'entreprise, mais qui sera juridiquement et financièrement indépendante, dans laquelle on va pouvoir prendre en charge les demandeurs d'emploi, échanger avec les accompagnateurs de l'emploi qui vont nous les flécher, et également partir des besoins des entreprises pour aller chercher la bonne personne en face. Voilà, et tout ça, et je l'ai déjà dit à l'ouverture de l'émission, en tant que tiers de confiance. Pourquoi ? Parce que à l'époque, et toujours un petit peu de nos jours, sans trop me tromper, je pense pouvoir le dire, on est quand même un des rares acteurs du bassin grenoblois qui a une double lecture, à la fois économique et sociale, humaine, en prenant en compte, au-delà des fragilités des personnes, c'est un fait, mais leur capacité d'apprentissage, leur mode d'apprentissage, leurs besoins en termes de management, de structure, d'environnement d'accueil. Vous voyez tout ce que je veux dire ? En fait, c'est presque du cousu humain. Nous, on ne fait pas de l'accompagnement de masse. On est vraiment sur de l'accompagnement individualisé et de la recherche de profils fines. Voilà.
Donc aujourd'hui, il existe toujours les deux structures, hein, l'entreprise à Lille et l'association à Lille.
J'allais y venir. L'entreprise a été vendue de mémoire en 2022 ou 2023. Vous m'excuserez, j'ai occulté cette date-là, voilà, par quelqu'un qui n'a pas forcément repris le projet sociétal, qui a gardé le marché, les clients et l'activité économique, mais qui n'a pas poursuivi en ce sens-là. Et donc, reste l'association avec le savoir-faire qu'on peut avoir, le soutien d'anciens salariés, James, moi également, et puis les réseaux d'entreprises qu'on avait créés et qu'on continue de développer, les partenariats avec les accompagnateurs de l'emploi et les collectivités aussi. On est soutenu par différentes collectivités, par l'État, on y reviendra. Mais en tout cas, on a gardé tout ça. Et l'association continue son petit bout de chemin et se développe. On en discutera avec Citélab et l'arrivée de Safa.
Dans quelques minutes, mais par contre, je vais quand même donner la parole à Safa, juste pour vous demander, vous, quand est-ce que vous avez rejoint l'aventure à Lille ? Est-ce que vous êtes passé justement par un parcours de bénéficiaire avant d'occuper un poste plus stable à la SOS ?
Alors, moi, je suis arrivée à l'association à Lille en janvier 2025.
Donc c'est tout récent.
Exactement, c'est ça. Avant, je viens d'être diplômée, je viens d'avoir mon master. J'étais toujours commerciale et là aujourd'hui, je suis avec à Lille.
Juin 2025, si ma mémoire est bonne. Oui,
juin d'accord. 2025.
Oui, on avait compris janvier.
Oui, voilà, il me semblait.
Ah, j'ai janvier. Ah, pardon.
Donc juin 2025. C'est encore plus récent que ce que je pensais.
Non, juin 2025, c'est bien ça.
Ok, alors ça va, vous sentez bien ?
Alors, ça se passe super bien.
Vaut mieux pas qu'elle dise au contraire quand même, c'est dommage.
Elle a le droit.
Alors, ça se passe très très bien avec Borangère. Je suis sur un projet qui m'intéresse vraiment et qui me tient à cœur. Du coup, je suis très contente. Voilà.
Alors, si je me mets dans la peau d'un candidat qui est intéressé pour bénéficier d'un accompagnement avec Alil, comment ça se passe ? Quel est le parcours que je dois suivre ? Et quel genre d'entretien, puis d'accompagnement vous me proposeriez ?
Alors, peu importe. Alors, si vous êtes suivi dans votre recherche d'emploi, c'est très bien. C'est même ce qu'on conseille. Si vous êtes historiquement suivi par, ça peut être France Travail, mais ça peut être les missions locales, ça peut être les services de la métropole, donc le PLI, ce qu'on appelle le PLI, c'est très bien. Par contre, ce n'est pas nécessaire au départ. C'est-à-dire que vous pouvez nous contacter. On a une adresse mail générique pour cela et on prendra en compte votre candidature. C'est-à-dire qu'on va vous rappeler. Donc, je vous donne l'adresse mail tout de suite, Christophe.
Bien sûr, allez-y.
Donc, tout simplement, association@alille.fr. Donc Alille, c'est A-L-Y-L. Voilà. Et donc vous nous contactez, vous nous faites un petit mail en nous expliquant un peu qui vous êtes, votre parcours et ce que vous cherchez. Vous laissez bien votre numéro de téléphone, c'est quand même plus sympathique de pouvoir échanger par téléphone. Et donc on vous rappellera dès qu'on peut. Et ensuite, on vous recevra. Et c'est là que, en fonction de votre projet, vous serez orienté soit sur la partie emploi, soit sur la partie création d'entreprise.
Donc, vous répondez à tout le monde.
Oui.
Ça, il n'y a pas de problème.
Oui.
Et il n'y a pas de présélection.
Si.
N'importe. Voilà, il faut quand même avoir un profil.
Tout à fait. On est malheureusement obligé de sélectionner les personnes parce qu'on a quand même pas mal de demandes. Alors, effectivement, il y a les gens qui nous contactent de manière volontaire, donc qui font des candidatures spontanées, entre guillemets, si on peut appeler ça. En tout cas, qui nous contactent spontanément. Et puis, il y a les personnes du milieu de l'accompagnement à l'emploi qui nous flèchent aussi des profils après leur en avoir parlé. Donc il y a ces deux voies-là. Et effectivement, on appelle tout le monde. Et ensuite, En fonction de ce qui se dit à l'entretien, si votre projet peut correspondre, je vous donne un exemple. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui cherchent, ce matin-là, même avant de partir, avant de venir ici, Claire me dit, bon, Bérangère, il y a quelqu'un qui cherche un stage d'un mois et demi, qu'est-ce que je fais, etc. Bon, alors, en toute transparence, les stages d'un mois et demi, etc., c'est pas notre priorité. Mmh. On peut, quand on a la possibilité de le faire, appuyer, etc. Mais ce n'est pas ce vers quoi on se tourne. C'est plutôt de la recherche d'emploi ou de la recherche d'alternance. Voilà. Donc, si jamais vous m'appelez et effectivement vous me dites « je recherche uniquement un stage de 2 mois », je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous a priori. Par contre, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'une alternance, vous pouvez nous contacter.
Je veux dire, si c'est un profil de jeune diplômé ou de jeune qui n'a aucune qualification, déscolarisé.
Ah bah oui.
Voilà, c'est bon. Les deux profils.
Bien sûr. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a volontairement créé un programme qui reste ouvert à tous. Alors, pour être complètement clair, dans l'année, on a 6 à 7 programmes qui se déroulent. À cette programme de 3 semaines. On a la chance d'être soutenu par les collectivités, par l'État, donc je peux les citer parce que c'est important. On est soutenu par l'État, par la métropole de Grenoble, par le département, entre autres, et puis par des fondations privées également. Certains nous ont mis des objectifs en termes de bénéficiaires, qui font qu'il y a des programmes dans lesquels on va demander d'avoir peut-être, par exemple, plus d'1 an de recherche d'emploi, et ça sera un critère pour rentrer, ou alors d'être au RSA, et ça sera un autre critère pour rentrer dans ce même programme, ou alors d'être une personne réfugiée, encore un autre critère. En tout cas, il y a des programmes dans lesquels il y a une liste de critères, et il y a volontairement des programmes qu'on laisse ouverts. Voilà, pour permettre, et il y en a 2-3 répartis dans l'année, pour pouvoir faire en sorte que quand on a quelqu'un dont on a envie de s'occuper et qui a vraiment une volonté de se faire accompagner, on lui dise « Ok, c'est pas dans ce programme-là que tu vas pouvoir rentrer, par contre dans 6 semaines, c'est en moyenne toutes les 6 semaines nos programmes, là on a un programme ouvert et c'est bon, si tu es toujours à la recherche d'un emploi. »
Et est-ce qu'il y a un critère d'âge ou pas ?
Aucun. Aucun. Au départ, on disait il faut être majeur, etc. Et on a ouvert aux jeunes, aux mineurs, parce qu'on en avait assez d'avoir de prendre en charge et d'accompagner des jeunes qui avaient plusieurs années d'errance devant eux, alors qu'on aurait pu peut-être essayer ensemble de faire quelque chose plus tôt.
Vous parliez de coûts de formation d'une personne tout à l'heure. Alors forcément, les accompagnements, les programmes, ça coûte de l'argent. Mmh. Et souvent, c'est très cher. Qu'est-ce que ça coûte pour les bénéficiaires ?
Ah oui, je ne l'ai pas précisé, ça me paraît tellement évident. pour les demandeurs d'emploi, pour les gens qui viennent nous voir, c'est totalement gratuit.
Voilà, donc ça, c'est toujours bien de le rappeler.
Bah, oui, effectivement.
Mais alors, ça veut dire, du coup, que vos financements, c'est un peu tous les partenaires que vous avez cités tout à l'heure, les fondations privées, les collectivités.
Oui.
Puisque, association, donc forcément, il y a beaucoup de subventions.
Oui, effectivement, mais on va pas se le cacher, même si elles sont en baisse, pour tous. Mais effectivement, c'est ce qui a permis de dérouler le modèle depuis quelques années. Et depuis que je me suis salariée au sein de l'association, on essaye d'aussi faire, de fonctionner avec les donations entreprises. C'est-à-dire que quand Madame Martin, RRH de l'entreprise XY, nous contacte parce qu'elle cherche un profil bien spécifique et qu'elle a compris qu'on allait étudier bien sûr le poste, qu'on allait étudier le travail, qu'on allait bien sûr aller chercher des compétences, mais qu'on allait s'attarder sur les savoir-être et sur le fait que la personne qu'on va lui proposer ne va pas déséquilibrer son équipe en termes de profil, etc. On a recruté pour elle quelque part. Et donc, ce qu'on propose aux entreprises, et j'insiste sur le terme proposer, on ne vend rien et il n'y a pas de contractualisation, c'est si elles veulent nous soutenir, si elles sont contentes de ce qu'on a pu leur apporter, c'est qu'elles nous fassent une donation du montant qu'elles le souhaitent, qui forcément sera défiscalisé pour elles.
Et oui, parce que c'est
à
là
plus
que
de 60%, ouais.
C'est là qu'on touche un petit peu à la limite du statut associatif.
Tout à fait.
C'est que on n'est pas censé avoir une grosse activité commerciale.
Alors oui.
Que là, c'est des prestations quand même que.
Oui. Alors il y a des associations qui vendent des biens ou des services. Hein, quand même, on a l'autorisation alors d'avoir une activité commerciale si on le déclare comme tel. Nous, pour l'instant, on n'en est pas là. C'est pas l'idée. Mmh. C'est de se dire, on est toujours dans cette idée d'être tiers de confiance et de répondre aux besoins. Voilà. On commercialise rien.
Alors, vous l'avez dit, donc, il y a, on va dire, quand on s'adresse à Lille, il y a deux grands chemins. donc, l'accompagnement vers l'emploi, de manière plus générale, et puis l'accompagnement sur la création d'entreprises, la création d'activités économiques. Alors, on en parle assez régulièrement dans notre émission de La Voix de l'Emploi, parce que c'est vrai que ça intéresse beaucoup, notamment les jeunes, qui, plutôt que d'être obligés d'être dans une démarche de recherche d'emploi, ont plutôt envie de développer un projet. C'est souvent un rêve. C'est souvent axé sur une passion, sur une activité qu'ils aiment et ils ont envie d'en vivre. Et c'est pas toujours évident. Donc, SAFA, c'est vous qui vous occupez un peu plus de ça, de l'accompagnement des créateurs, des porteurs de projets, parce qu'avant d'être un créateur d'activité, on porte un projet.
Exactement, c'est moi.
Et alors, comment ça se passe? C'est de manière très classique, comme on peut trouver auprès d'autres structures d'accompagnement sur ce créneau-là, ou il y a une particularité à Lille?
Alors, je vais vous parler d'abord du dispositif CitéLab qui porte l'association à Lille. Mmh. Alors, le dispositif CitéLab est un programme national soutenu par BPI France. Et ici à Grenoble, nous bénéficions du soutien de Grenoble-Alpes Métropole, de la ville de Grenoble et de l'État. Alors, l'objectif, c'est d'accompagner les jeunes, les porteurs de projets.
Pas forcément jeunes, du coup.
Non, pas les jeunes, pardon, les porteurs de projets, exactement. Les porteurs de projets, il n'y a pas de critères, ni d'âge, ni de formation, ni rien. Voilà, pour les aider à créer leur entreprise. Alors, on accompagne les personnes qui veulent se lancer, même quand leur idée n'est pas encore très claire. Mmh. L'accompagnement est sur mesure. On ne propose pas des programmes, des programmes généraux pour toute personne. Non, en fait, on propose un accompagnement sur mesure. Concrètement, cela passe par des rendez-vous, des ateliers collectifs, des formations, une écoute bienveillante. Et on identifie le besoin. Après l'identification du besoin, on oriente nos porteurs de projets vers nos partenaires de l'écosystème grenoblois. Voilà, nos partenaires de la création d'entreprises.
D'accord. Et vous êtes toute seule au sein d'Alil à accompagner les porteurs ou vous êtes plusieurs, non?
Alors oui, je suis toute seule sur le projet.
Alors actuellement, vous suivez combien de projets?
Alors puisqu'on vient de commencer en juin, on est à peu près à... Pas plus de 10 personnes. Pas plus de 10 porteurs de projets.
C'est déjà pas mal. Hein,
oui, c'est déjà pas mal. On avance très bien.
En même temps.
Oui, on avance très bien.
Et par exemple, quels sont les types de projets? Sur les 10, là, si vous nous en donniez un ou deux.
Alors, je vais vous dire, hier, j'ai reçu une porteuse de projet qui est intéressée par un food truck.
D'accord.
De la cuisine chinoise, du coup, voilà.
Très bonne idée.
Oui, très bonne idée. Chinoise.
Puis ça marche bien, les food trucks.
Bien sûr, ça marche bien, oui.
Et un deuxième projet comme ça?
Un deuxième projet, une entreprise de nettoyage.
D'accord.
Oui.
C'est souvent donc un modèle auto-entrepreneur, micro-entreprise, puisque lorsqu'on a fait d'autres émissions, on voyait que c'était souvent ce type de statut qui fonctionnait le mieux. Là, c'est pareil, c'est
exactement.
Y a personne qui vient voir avec de grandes ambitions, de dire moi je veux monter une super boîte, avoir des filiales. On ne sait jamais, des fois il peut y avoir des personnes qui ont des grands projets comme ça.
Alors nous en fait on commence par les statuts auto-entrepreneurs et micro-entreprises. Mmh. Voilà, si le projet est mature, on y va.
Oui, après, c'est vrai qu'on, comme le disait Safa, on laisse la porte ouverte aussi aux porteurs de projets qui ont des idées d'envergure. On est également là pour accompagner les auto-entrepreneurs qui veulent créer des postes et se développer. Donc, jusque-là, on a eu beaucoup de modèles micro et auto-entrepreneurs. Mmh. Pour autant, ça, ça peut être aussi d'autres statuts juridiques. Mmh. Voilà.
Alors, on va pas tarder de faire notre petite pause musicale et on reparlera de création d'entreprises, de création d'activités économiques, parce que c'est pas toujours des formats, des statuts d'entreprise. Je voulais juste qu'on termine peut-être cette première partie où on parlait de l'association à Lille de manière générale avec une autre petite chose que j'ai vue sur votre site. Vous parlez à un moment donné que d'un savoir-faire, donc des gens, hein, d'à Lille, basé sur une expérience de recrutement, décalé et inclusif. Alors inclusif, ça c'est un terme maintenant qu'on utilise beaucoup et on comprend ce que ça veut dire. Ça a remplacé un peu le terme insertion. Mais décalé, ça veut dire quoi ?
Alors décalé, c'est alors ça se fait maintenant, mais nous on ne quand on propose un profil à une entreprise ou qu'on contacte une entreprise, on lui parle de quelqu'un. On n'envoie pas le CV. On l'envoie, mais c'est pas la première chose qu'on fait. Mmh. On a, comme on fait de l'accompagnement quand même individualisé, on sait parler de la personne. Ses forces, ses axes d'amélioration, ce qui lui plaît, dans quoi elle s'éclate, ce qui au contraire est à travailler, voilà. Et donc on a un format où, sur cet accompagnement à l'emploi, on va apprendre à connaître la personne, donc je viens de vous le dire, valider qu'elle a les savoir-être pour intégrer le monde de l'entreprise, c'est important. C'est important pour les recruteurs et c'est important pour nous de pouvoir se porter garant voilà, auprès de l'entreprise, même si on est sur de l'humain, donc ce n'est pas du 100%. Et derrière, on a un format, on n'est pas rentré dans le détail du programme sur la partie recherche d'emploi, mais on a un format un peu spécifique où on va avoir une semaine d'atelier collectif, où là, on remobilise une dizaine de personnes à la recherche d'emploi ensemble. On leur apporte des choses, des clés. Souvent, quand... Je suis un peu plus longue. J'ai combien de temps, Christophe ? Parce que c'est vous qui appuyez sur le bouton.
Ah, oui, on peut faire la pause quand on
non.
veut.
Mais souvent, quand ils arrivent, le lundi matin de cette première semaine, ils nous disent, et ils disaient aussi par le passé, aux anciens collaborateurs de l'asso que je salue fortement, qui ont contribué aussi à faire ce qu'elle est aujourd'hui. Oh, mais nous, les ateliers collectifs, on a déjà fait. Voilà. Donc, ils n'étaient pas forcément emballés. Et en fait, finalement, à la fin de la première semaine, ils nous disent à 95% que c'était super, que ça leur a apporté. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intervenants, parce que nous, on arrive, moi j'ai été RH aussi, avec la lecture économique, entreprise, on va titiller là où il faut, etc. C'est une approche un peu décalée, et je reviens à ce terme-là. Et derrière, on se dit très bien, il y a eu des intervenants sur la première semaine, on a à peu près vu à qui on avait affaire, nous on a des outils pour cartographier un peu les profils, et les projets surtout. Parfois, on retravaille le projet ensemble. On ne se l'est pas dit, mais voilà, ça peut être important parce qu'on a énormément de demandeurs d'emploi qui arrivent, qui tournent en rond depuis des mois, des années. C'est juste qu'ils ne sont pas sur le bon projet. Mmh. Voilà, bon. Mais ça, c'est important de l'entendre aussi. Parfois, on retravaille le projet. Et derrière, ils vont partir en stage dans une entreprise qui collabore avec nous sur un poste qui correspond à leur projet. Et là, ils auront un tuteur. Et on pourra aussi valider qu'en situation de travail, ben, c'est la même personne, vous voyez ce que je veux dire ? Mmh. Et avec d'autres interlocuteurs aussi. Et à la fin de ces 3 semaines, on a quand même de quoi accompagner la personne et de la matière. Et c'est cette matière-là qui va faire qu'on va approcher l'entreprise avec une autre vision. On ne reçoit pas quelqu'un en face à face, une fois par mois, une heure par... Voilà. On est vraiment sur une vision un peu complète du bénéficiaire et on va vraiment s'en servir pour pouvoir le mettre en poste dans un environnement qui lui correspond et faire un matching, vous voyez. Voilà, c'est ça.
C'est l'association à Lille qui est avec nous aujourd'hui dans la voie de l'emploi, accompagnement vers l'emploi, décalé et inclusif. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer la discussion. À tout de suite.
Les hits de demain sont déjà sur News FM.
We had was dark times, walking on the sand line. Fading now, going up, coming down. Using up my 9 lives just to buy the goodbyes. Picture this, looking for a dead breeze. Life was eating me alive. The devil's got an appetite. I'm wishing for another try, another try, another try. Oh, I stopped running
to the grave, oh baby, just to live another day. No maybes, I've got everything to lose, I'm staying. I'm the only one who's gonna save me. I start running to the grave, I start running to the grave, oh baby. I start running to the grave, I start running to the grave, oh baby. Now I'm seeing options and I wanna opt in. Everything's clearing up, I can see what it really could be. I'm so glad I'm breathing, somebody's gotta be watching over me. Life was eating me alive, the devil's got an appetite. I'm wishing for another try, another try, another try. Oh, I stop running to the grave, oh baby, just to live another day. No maybes, I've got everything to lose, I'm staying. I'm the only one who's gonna save me. I stop running to the grave, I stop running to the grave, oh baby. I stop running to the grave, I stop running to the grave, oh baby. Take the moment, make it real, give me something I can feel. Take the moment, make it real, give me something I can feel, yeah. I stop running to the grave, oh baby, just to live another day. No maybes, I've got everything to lose, I'm staying. I'm the only one who's gonna save me. I stop running to the grave, I stop running to the grave, oh baby. I stop running to the grave, I stop running to the grave, oh baby.
Voix de l'emploi, c'est sur News FM. Voilà, on repart pour la deuxième partie de cette Voix de l'emploi, aujourd'hui consacrée à l'association à Lille, basée à Grenoble, accompagnement vers l'emploi et accompagnement à la création d'activités économiques. Nos invités sont Bérangère Grimou et Safa Bakour. Alors, nous parlions de création d'entreprise juste avant la pause. Eh ben, on va continuer donc avec Safa à travers ce parcours Cité Lab. Alors, d'abord, peut-être des Bérangères qui va apporter la réponse. Pourquoi avoir baptisé cet accompagnement des porteurs de projets Cité Lab? Lab, ça a un côté laboratoire. Ah, attendez, je vais vous remettre le micro, ça sera mieux.
Effectivement, j'imagine qu'il y a cette connotation-là. Pour autant, Cité Lab est un dispositif national, donc nous ne l'avons pas baptisé.
Ah, ça ne vient pas de
voilà,
vous,
ça ne
précisément.
Vient pas de...
Oui, tout à
Il
fait.
Y a des Cité Lab sur plus de 130 territoires, si je ne m'abuse. Et c'est en constante progression. Donc, c'est un dispositif national piloté par BPI et l'État. Et donc des associations, des collectivités locales sont labellisées en raison de leur activité, de leur implantation locale, parce qu'il y a un ancrage local qui est très important dans l'accompagnement, sont labellisées Cité Lab.
Voilà. Et justement, cette labellisation, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est un financement principalement, ou est-ce qu'il y a un autre type de profit?
Oui, il y a plusieurs types de profits. Effectivement, cette labellisation nous permet de financer le poste de SAFA, voilà, sur plusieurs années. Donc, c'est très important. La création de postes dans une structure associative, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et au-delà de ça, on a le soutien des partenaires, donc BPI, l'État. Et au niveau local, on est facilité, ils sont vraiment facilitateurs. De notre action, c'est-à-dire qu'ils vont mettre à disposition. Je vous donne un exemple, ça sera plus parlant. On a la journée contrat de ville qui va avoir lieu à l'automne, qui va permettre de mettre en lumière les activités et les initiatives, c'est le terme, dans les quartiers de l'agglomération. Et donc, bah, ils nous mettent à disposition, la métropole nous met à disposition et l'État nous met à disposition un stand pour qu'on puisse rencontrer le public. Et donc, par cette action-là, ils valorisent le CitéLab et ils nous permettent d'aller à la rencontre des personnes qui pouvaient être intéressées par notre action. Donc, effectivement, on a aussi un soutien, un kit de communication, des petites choses comme ça. Voilà, on va lancer le site internet, je précise quand même, sur la partie CitéLab d'ici une quinzaine de jours. Et donc, on doit intégrer et on va intégrer les outils fournis à cette occasion-là.
Alors Safa, donc, on rappelle d'abord que vous avez pris vos fonctions tout récemment, hein, depuis le mois de juin, que vous accompagnez déjà une dizaine de porteurs de projets. Alors c'est peut-être un peu tôt hein, pour tirer des bilans, des tendances, des choses comme ça. Vous nous avez donné deux petits exemples de projets qui sont actuellement, que vous suivez, donc créer j'ai oublié le terme,
un food truck.
Un food truck, voilà, j'avais le mot food, mais pas l'autre. Donc un food truck, donc un petit camion pour se déplacer, enfin un petit véhicule pour aller vendre de la nourriture chinoise, un petit peu à droite à gauche. Et puis l'autre, c'était nettoyage,
c'est
une société de nettoyage. Là, sur la dizaine de projets, c'est aussi globalement un petit peu les mêmes domaines, donc ce qui sont un peu tendance, un petit peu à la mode dans l'esprit des porteurs de projets. Vous avez vraiment des projets très, très différents.
Alors, il y a des projets très différents. Là, je vous ai dit, par exemple, food truck, oui, c'est la tendance. Mais on accompagne aussi une porteuse de projet qui souhaite voilà, monter une entreprise de traduction anglaise. Du coup, voilà, c'est son choix.
Donc, se mettre à son compte comme traductrice. Alors, je disais une dizaine, c'est 10 précisément ou c'est 9, c'est 11
Alors, c'est 9, si je me rappelle bien.
Ok, alors oui. Si on part sur 9, c'était juste pour poser la question sur est-ce qu'il y a plus de jeunes femmes, plus de jeunes hommes ? Quelle est la tendance ? Est-ce que c'est plus les femmes qui ont envie de se lancer ou c'est vraiment...
Franchement, pareil. Les deux. On a les deux, on a des femmes, on a des hommes. Mais je pense que les femmes sont plus intéressées par le monde de l'entrepreneuriat.
Ouais.
Oui.
Et comment on explique ça ?
Bah,
si on peut, enfin si vous pouvez avancer une petite hypothèse.
Je peux vous dire que je sais pas, mais les femmes sont motivées aujourd'hui.
Ouais.
Je suis très contente. Je sais pas.
C'est peut-être aussi parce que dans l'esprit des jeunes femmes, c'est une façon de lutter contre l'inégalité.
Oui, ça peut être ça aussi, bien sûr.
Peut-être,
bien
je sais
sûr.
Pas. J'avance.
Non, je pense que vous avez raison. Et puis également, souvent, l'entrepreneuriat comporte ses difficultés, mais a aussi ses avantages. Et quand on a un projet, on imagine souvent que on est moins dépendant du quotidien professionnel comme on peut l'être en tant que salarié. Donc on est son propre patron, ce qui peut permettre de concilier vie familiale et professionnelle. C'est souvent ce qui ressort aussi.
Pour autant, il faut aussi que, je pense que ça fait partie hein, de votre travail, Safa, de vite expliquer aux porteurs de projet que porter un projet, enfin monter son activité, c'est une activité de tous les jours, 24 heures sur 24.
Oui.
Donc on a souvent dans la tête l'aspect, tous les aspects positifs, mais il faut bien se rendre compte que c'est très très contraignant d'être son propre patron.
Bien sûr, parce que comme vous avez dit, c'est un travail H24. Vous devez travailler, sinon il n'y a personne qui va travailler pour vous. Vous n'avez pas un salaire. Du coup, voilà, il faut vraiment bosser. Et c'est ce que j'explique à mes porteurs de projets, que rien n'est facile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est là. On les accompagne sur ces points aussi. Voilà, il faut avoir la mentalité d'un vrai entrepreneur pour réussir.
Ouais.
C'est vrai que rien n'est facile et on est là quand même pour faciliter un petit peu la trajectoire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un travail que fait Safa, qui est directement fait auprès du porteur de projet sur la confiance en soi, sur la manière de présenter le projet, toutes ces choses qui sont primordiales. Peut-être ce qu'on peut ajouter, Safa, puisqu'on ne l'a pas encore dit, c'est que là encore, comme sur la partie emploi, on est en totale collaboration avec, avec l'écosystème et avec les acteurs d'accompagnement à la création d'entreprises, parce qu'il y en a sur Grenoble. Mmh. Il y en a qui font du très bon boulot et on travaille en collaboration avec eux. Juste pourquoi nous, on a eu cette labellisation Cité Lab, c'est peut-être une question qui se pose. C'est de se dire qu'on est habitué à accompagner le public. On a une implantation en quartier prioritaire de la ville. Et le dispositif Cité Lab est très largement orienté vers les personnes qui habitent en quartier, pas uniquement, mais très largement. Mmh. Et de fait, on est habitué à l'accompagnement individuel, c'est-à-dire à capter chez la personne ce qui est à valoriser et ce qui lui manque pour ensuite pouvoir la faire monter en puissance dans son parcours. Et c'est exactement ce que fait Safa sur le Cité Lab, c'est que selon la personne qu'elle a en face d'elle, elle ne va pas orienter à l'issue vers le même interlocuteur, elle va travailler le besoin, ça peut être, on parlait de confiance en soi, ça peut être la posture, mmh. ça peut être vérifier la viabilité du projet économique, la viabilité économique telle qu'elle, sinon, voilà. Récemment, tu as travaillé la commercialisation aussi très fort, c'était un point important sur un projet. Mmh. Voilà, bon, autant d'exemples qu'il y a de porteurs de projet. Et derrière, une fois qu'on estime que la personne est prête, et c'est là notre valeur ajoutée, c'est de travailler avec les autres. On va pouvoir dire au porteur projet, bah c'est bon, t'as plus besoin de nous. Je caricature, mais c'est bien quand c'est comme ça. Et tu vas aller voir telle ou telle personne dans telle ou telle structure de notre part. Et on met en lien, en fonction du besoin. Voilà. Bah hier, récemment, avec un de nos partenaires, il y avait un besoin financier sur un petit projet.
Oui.
Bon, on s'est dit, allez, c'est l'ADI. en l'occurrence,
notre partenaire.
Voilà, une des structures avec lesquelles on travaille. Voilà. Donc la valeur ajoutée du Cité Lab, c'est ça, c'est détecter, valoriser pour ensuite flécher.
Alors vous l'avez précisé il y a juste quelques instants, et on ne l'avait pas dit depuis le début de l'émission, c'est qu'effectivement, votre association à Lille, vous êtes implantée au cœur de la Villeneuve, rue des Trembles, hein, si ma mémoire est bonne, si c'est bien ce que j'ai vu sur le site.
C'est exactement ça.
Donc rue des Trembles à la Villeneuve, et ça a été un choix stratégique de votre part.
Mmh. Oui, bien sûr.
Quand je dis vous, c'est ceux qui ont monté l'association.
Bien sûr. Oui, on aurait pu s'implanter à l'époque dans de beaux locaux au cœur du centre historique de Grenoble. Maintenant, l'idée, c'est d'être proche des gens et on voulait que tout à chacun puisse se sentir libre de passer la porte et qu'il n'y ait aucune hésitation. Donc, l'idée, c'était de s'implanter dans un lieu au cœur de l'agglo, à proximité des transports. Et oui, à proximité de Villeneuve, mais aussi de Village Olympique. Et puis, on a aussi bien des gens qui viennent de la périphérie grenobloise que des bénéficiaires, des demandeurs d'emploi ou des porteurs de projets qui viennent des quartiers, quels qu'ils soient, de Grenoble. Mmh. Voilà.
Et c'est vrai que il y a beaucoup d'habitants des quartiers populaires et des quartiers prioritaires qui se plaignent de la désertification. Les pouvoirs publics, les commerces et les entreprises aussi qui quittent les quartiers. Ben vous faites le chemin inverse pour bien montrer que vous êtes là aussi. Et puis on évoquait au tout départ cette fameuse notion d'un public qui rencontre des difficultés, souvent, malheureusement, ce sont aussi les demandeurs d'emploi des quartiers populaires qui souffrent de tous les clichés attachés à leur quartier.
Complètement. Là-dessus, je ne vous contredirai pas, Christophe. Par contre, je me permets de revenir sur quelque chose. C'est qu'il y a énormément de dispositifs, d'actions qui sont faites à destination des habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville, quelles qu'elles soient. Hein, ça peut être créer du lien social, on n'est pas seulement sur la partie emploi, il y a énormément d'initiatives. Alors, vous parliez des pouvoirs publics, certes. Moi, je suis... À chaque fois qu'on découvre une nouvelle action, on se dit, mais c'est voilà, encore une et c'est super, etc. Et en plus, elles ont chacune leur place. Et aussi, les habitants eux-mêmes font vivre leur quartier. Il y a des assos de quartier qui sont super, qui organisent des choses, même l'été, et à destination des habitants. Et il y a une richesse au cœur des quartiers. Mmh. Que beaucoup ignorent, mais il y a vraiment, on a l'image, oui, des quartiers qu'on peut connaître, clichés et grand public. Mais si moi j'y travaille et que j'ai monté cet asso, et je parle vraiment, moi, ça n'engage que moi, c'est que au sein des quartiers, il y a des gens qui ont envie. Il y a des dynamiques. Certes, il y a des dynamiques contraires, bien sûr, mais il y a tout le tissu associatif, toutes les mesures qui sont prises, qui sont vraiment à saluer. Et tout ça fait que, finalement, si vous venez dans les quartiers, vous verrez qu'il y a énormément de belles choses qui s'y passent aussi.
Ah ben, nous effectivement, on ne dira pas le contraire, puisqu'on est souvent sur place, dans les quartiers, notamment pendant l'été, avec toutes les fêtes. Ça permet de montrer à chaque fois cette fameuse richesse du tissu associatif et des mobilisations habitantes aussi, à travers les associations et les collectifs, bien sûr. Alors, j'avais envie d'aborder peut-être une question d'ordre plus, on va dire, plus général, pour terminer l'émission. On vit une époque quand même assez troublée politiquement, avec notre Premier ministre qui bataille pour faire accepter son budget. On voit des grands partis qui ne savent plus trop où aller, les ténors de la politique qui n'attirent plus notre confiance. Ça touche forcément aussi les politiques liées à l'emploi. Est-ce que... depuis 2019, est-ce qu'il y a un impact sur votre travail à vous, un impact négatif ou pas, tout ce chaos qu'on vit actuellement? Et vous parliez tout à l'heure des subventions qui se réduisent. Nous, à News FM, on le sait aussi, puisque nous sommes une radio associative, et que chaque année, c'est toujours... Enfin, disons, l'année prochaine, c'est toujours le point d'interrogation. Est-ce que les moyens financiers vont se réduire? Donc, est-ce que vous sentez, est-ce que vous vivez un impact en ce moment par rapport à tous ces bouleversements de la société française?
Mais je vais peut-être laisser répondre Safa, parce que moi, en tant que sur la gestion de l'asso, forcément que j'ai ma vision des choses. Mais peut-être en tant que collaboratrice au sein de l'asso, toi, est-ce que tu sens qu'il y a un impact ces derniers mois?
Depuis le mois de juin.
Depuis le mois de juin. sur l'association, sûrement, bien sûr. On a des problèmes de financement, ça c'est sûr. Mais je ne peux pas vous dire plus que ça, puisque je suis là depuis juin, je n'ai pas beaucoup d'informations.
Mais peut-être aussi, pas seulement des histoires de financement, mais les politiques qui sont menées, qui peuvent aussi avoir un impact sur le côté accompagnement vers l'emploi, l'inclusion, l'insertion professionnelle. Est-ce que ça se ressent? Est-ce que vous le ressentez? Ou pas forcément, hein, je veux dire, si vous le ressentez pas.
Alors, il y a deux niveaux, effectivement. Sur les subventions, oui, effectivement, elles sont en baisse. C'est un fait, et voilà, je ne discuterai pas. Vous parliez d'actualité et du Premier ministre, tout ça. À la fin de l'année dernière, il y a eu le décalage du vote de la loi de finances, et forcément, ça a eu un impact sur beaucoup d'associations, puisqu'il y a eu un décalage du versement, ou en tout cas il devait y avoir un décalage du versement des subventions. Enfin voilà. Donc très concrètement, oui, cela ruisselle jusqu'à nous. Et quand on a un décalage de versement, forcément on se dit bon, comment on va faire pour pallier à tout ça? Donc ce sont des solutions à chercher avec une équipe qui reste à taille identique. Donc c'est vrai que personnellement, ça m'a mobilisé sur deux mois de se dire ok, au lieu d'avoir les subventions en juin comme chaque année, on les aura peut-être en octobre ou peut-être en novembre. Et quand c'est un budget qui paye les gens, forcément, vous cherchez des solutions. Quant aux mesures prises, là, par contre, c'est beaucoup plus positif. Mmh. C'est-à-dire que j'en parlais tout à l'heure, on a au niveau local, ne serait-ce que la mesure du contrat de ville, qui est pluriel et qui permet... je trouve que si on reste assez généraliste, on a de plus en plus de dispositifs et d'actions qui sont faites. Le seul impact moins positif, plus négatif que ça peut avoir, c'est que finalement, il y a pléthore de dispositifs, d'actions, etc. Et que j'ai l'impression que les gens ne savent plus où donner de la tête, qui fait quoi, etc. Donc, il y aura peut-être besoin de rationaliser un petit peu tout ça. Mais en tout cas, sur le terrain, on sent une énergie qui est restée aussi haut niveau.
Et comment vous ressentez le public qui vient vous voir? Est-ce que eux, ils sont plutôt pessimistes sur leur avenir. Je pense peut-être pas sur les porteurs de projets qui, eux, doivent être, au contraire, très volontaires, très optimistes. Mais pour ceux que vous accompagnez dans un accès à l'emploi, quel est un petit peu le moral de ce public-là ?
On a souvent des gens qui ont perdu confiance en eux, qui ont perdu confiance en l'avenir, c'est vrai. Et ça, c'est tout un travail qu'on fait avec eux. Et je vous parlais d'ateliers collectifs ou de groupes ou d'accompagnement individuel, c'est aussi à ça qu'on sert. C'est-à-dire que ensemble, forcément, on insuffle une dynamique et ça porte la personne, ça la remet dans un dynamisme, dans un quotidien, etc. Et ça, c'est primordial. Après, la économiquement parlant, jusqu'à il y a un peu plus d'un an, l'activité économique était quand même assez porteuse, donc ça permettait, il n'y avait pas énormément de chômage, et ça permettait la mise en mon emploi de gens qui avaient eu très rarement leur chance, c'est-à-dire de personnes un peu plus éloignées de l'emploi. Là, forcément, depuis une bonne année, on est sur un retour en arrière en termes de recrutement et en termes de chiffres. Du coup, effectivement, on retombe sur des profils qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont plus leur emploi, pourquoi ils en sont privés, alors que finalement, il n'y a pas si longtemps, c'était le cas. Donc, la bonne santé de la France pendant quelques petites années en termes économiques a fait du bien, a permis à ces personnes de regagner de l'expérience. Et si elles reviennent maintenant sur le marché de la recherche d'emploi, c'est avec ce bagage-là. Voilà. Mais on fait ce travail d'accompagnement, de coaching aussi un petit peu, de remobilisation. On est là aussi quand il y a un coup de moins bien, parce que c'est normal, y compris un porteur de projet. Souvent, en tant que créateur, on se sent seul. Mmh. On l'est quelque part. Mais se sentir seul, c'est voilà, ce pourquoi aussi on existe. C'est se dire, voilà. S'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit un questionnement qui surgit, et quel que soit l'ordre de ce questionnement, nous sommes là.
Et la région grenobloise reste une région avec une grande vitalité économique ? Non, pas forcément. Ça connaît aussi un peu des...
Oui, voilà. Depuis une bonne année, on sent, voilà, ne serait-ce que sur la mise en stage, qu'il y a moins de demandes de la part des entreprises, sans parler même d'emploi. Il y a des préoccupations. Je pense que vous, comme moi, et les entreprises, c'est pareil. On attend de voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Et je pense qu'il y a une certaine timidité, fragilité du côté économique, en tout cas, voilà, qui s'est mis un petit peu en retrait depuis une bonne année. En tout cas, nous, on le ressent fortement au sein de l'association.
Donc, on va continuer à rester attentif, voir comment évoluent les choses. Merci à toutes les deux d'être venues passer ce moment sur News FM. Bonne route à l'association à Lille, bonne continuation. On rappelle donc, pour vous contacter,
oui, association@alille.fr, A-L-Y-L. Voilà,
donc des infos qu'on peut trouver aussi sur le site web. Et puis, si on veut venir vous rencontrer physiquement, donc c'est rue des Trembles, quel numéro ?
Au 30.
30 rue des Trembles, du côté du quartier de la Villeneuve, à Grenoble. Merci à
Christophe.
Toutes les deux. Donc notre émission de la Voix de l'Emploi se termine maintenant. Nous étions avec Bérangère Grimou, directrice et fondatrice, cofondatrice de l'association à Lille, et Safa Bakour, chef de projet du dispositif CitéLab à l'association à Lille. Merci à vous qui nous avez écoutés, qui nous avez suivis durant cette petite heure. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission de la Voix de l'Emploi sur News FM. Bonne journée.
C'était La Voix de l'Emploi sur News FM avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires.